France Inter, le 18-20.
Il n'a pas fini d'en entendre parler forcément, Emmanuel Macron, de son « il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot dans la restauration ». D'accord, il y a eu les caricatures et les réseaux sociaux qui sont là pour ça aussi, mais ça a aussi une vertu, cette phrase, elle nous fait réfléchir sur le marché de l'emploi, justement, dans l'hôtellerie et la restauration. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on la traverse, cette rue ? Trois pas en avant, en effet, il y a du travail. Autour de 100 000 postes non pourvus, c'est un chiffre qui est variable, mais qui est toujours très haut. Trois pas en avant, c'est aussi, dans certains secteurs, des métiers qui sont accessibles sans formation ou en formation des alors que l'on entre dans ces professions et que l'on peut s'y former. Il n'a jamais été dit qu'on restait à la plonge toute sa vie. La diversité des métiers, elle existe et elle est multiple. Trois pas en arrière, ce sont des conditions de travail difficiles, debout, mal au dos, des soirs, des dimanches. Trois pas en arrière, c'est beaucoup de pression, des salaires qui ne sont pas forcément attractifs non plus. Bref, visiblement, l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer. Alors, comment on fait justement pour se retrouver au milieu de la route? Comment rendre ces métiers peut-être plus attractifs? Comment imaginer moins de turnover? Comment retenir les jeunes, les salariés dans ces métiers-là? Retrouvons-nous donc du côté de la rue que vous voudrez autour de ces questions et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Laurence, bonsoir, c'est vous qui entamez ce téléphone sonne, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir Fabienne, et merci pour toutes vos équipes et surtout pour cette émission, j'adore cette émission. Écoutez, je suis un peu sous le coup de la colère et sous le coup de l'émotion également, parce qu'en fait, moi j'ai un ami qui est cuisinier depuis bientôt 25 ans, et là il est en complet burn-out et il est en arrêt depuis après 18 ans de bons et loyaux services. Il n'en peut plus, il va se réorienter. Alors, s'il peut, hein, parce que là, en ce moment, on n'est pas à cette étape-là. Et moi, ce que je suis en colère contre cette... comment expliquer ? Vous avez tout résumé dans votre introduction. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment un président peut se permettre d'être aussi impétueux, d'être aussi... parler des gens qui veulent travailler, qui aiment leur travail, qui ont fait toute leur vie autour de la cuisine. Enfin, moi, je vous parle de la cuisine, mais le métier de serveur et qui sont en fait au service de la personne et qu'on ne considère pas. Si effectivement, moi, je vais vous dire l'attraction. Je suis pas ministre, hein, mais l'attraction, eh ben, ce serait que les patrons copains de Monsieur Macron, qui sont chefs de restauration, eh ben, qu'ils emploient les gens à la hauteur du travail demandé. Mais c'est tout.
Merci beaucoup, voilà. Laurence, pour cette entrée en matière et ce premier témoignage. Il y en a beaucoup dans les appels qui parlent effectivement des conditions de travail, des difficultés, de la raison pour laquelle effectivement on entre et aussi on sort en fait de ces métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Pour répondre à vos questions, à vos interrogations, Laurence, et à toutes celles qui seront les vôtres jusqu'à 20h sur France Inter, Thierry Max est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef cuisinier, évidemment, on ne vous présente pas. Roland Aigui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, on vous présente un peu, vous êtes président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Tiens, je vais commencer avec vous, Roland Aigui, si vous le permettez. Encore une fois, il y en a plein, des gens comme Laurence. Magnifique métier, au pluriel d'ailleurs, mais des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il y a sûrement beaucoup de postes à pourvoir, mais qu'est-ce que c'est difficile ?
Oui, je crois qu'il faut effectivement tordre le cou, et on est là pour ça, effectivement, à cette vision de nos métiers. Il faut éviter tous ces écueils, donc je regrette effectivement la présentation du compagnon de madame qui est en souffrance actuellement. Mais je connais aussi, bon, je vous rappellerai un petit peu notre branche, c'est 1 million d'actifs, hein. Mm-hmm. C'est 220 000 entreprises, c'est 1 million d'actifs. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 20% de ces actifs qui ont moins de 30 ans chez nous. Donc nous avons effectivement, vous l'avez entendu depuis 3 jours, ça fait l'actualité, donc nous avons des besoins très importants dans nos métiers, et nous sommes en train de réfléchir justement en interne pour éviter tous ces écueils et tous ces excès effectivement, mais... On peut toujours trouver dans tous les métiers, effectivement, des gens qui font des burn-out, exactement, c'est vrai. Mais on connaît aussi beaucoup d'entreprises où tout se passe normalement bien, que ce soit dans la restauration. Parce que quand on parle de la restauration, on parle effectivement souvent, très souvent des cuisiniers. Mais il faut savoir que dans nos métiers, dans les cafés, hôtelleries, restaurants, dans la nuit, il y a 35 métiers différents. Donc, il faut pas. Il y a la cuisine, c'est très très important. Derrière, il y a le service. Il y a 35 métiers. Et nous, on prend en compte tous ces métiers-là et les besoins que l'on a. Donc, c'est vrai qu'on doit aussi regarder, travailler comment améliorer ces métiers-là.
Thierry Marx, pour sortir de cette image, alors qui est souvent bien réelle, hein, c'est l'histoire que racontait Laurence et il y en aura d'autres. Comment est-ce qu'on rend l'attractivité finalement? Est-ce que c'est aussi ça qu'elle dit, Laurence?
J'ai, hélas, j'entends évidemment ce propos sur la pénibilité de ce métier. J'ai qu'une réponse. Je trouve que c'est la plus adaptée, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle permet de monter en compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour une personne de se retrouver dans cet état, dans une entreprise, parce que énormément d'entreprises attendent des salariés. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, il faut se former. C'est vrai que quand vous parlez d'attractivité de ce métier, quand on rentre dans ce métier au statut de commis de cuisine, en gros on a 1 350 € par mois. C'est pas acceptable. Donc ça veut dire que en interne, dans l'entreprise, il faut permettre à ces jeunes gens de les former extrêmement rapidement pour qu'ils puissent monter en compétences et se retrouver dans un statut hiérarchique plus important pour avoir une rémunération plus importante. Et puis, n'oublions pas que ces métiers sont régis par des lois. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mmh. Il n'y a pas de raison pour un salarié d'accepter des conditions de travail qui ne soient pas bonnes. Il n'y a pas de raison, depuis qu'on est aux 39 heures, c'est 1997 quand même, eh bien, ces métiers ont avancé, mais je me retrouve souvent à parler avec
35
des jeunes.
Même, enfin bon.
Oui, non, mais pas pour l'hôtellerie-restauration, quand vous parlez avec des personnes, par exemple, j'en dis, mais pourquoi tu acceptes ces conditions de travail? Il n'y a aucune raison à
parce
cela.
Parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut bouffer.
Non, c'est pas vrai, ça. Marx. C'est pas vrai. Non. Quand vous avez autant de possibilités métiers, 58 000 postes à pourvoir, au jour d'aujourd'hui, dans nos métiers. Donc ça veut dire que vous traversez la rue, comme l'a dit le président Macron, et vous avez un emploi en face. Aujourd'hui, moi, ma stratégie dans mes entreprises, c'est plutôt de faire tout pour garder mes collaborateurs, et pas de les laisser partir. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que le salarié se mette en situation de monter en compétences pour dire, mais j'ai pas de raison de continuer à travailler, je suis pas une main d'œuvre corvéable à merci.
Alors c'est ce qui fait, cela dit, parce qu'il y a un énorme turnover. Le turnover, ça veut dire qu'on va se vendre ailleurs quand quelqu'un propose mieux, en fait.
Et c'est pas nouveau. Alors on a toujours l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis que je suis entré dans ce métier, les anciens me racontaient la même chose. Il y avait des saisonniers qui partaient en gros à partir du mois de mars. Et il y a toujours eu un turnover dans ces métiers. Et puis pourquoi il y a toujours eu de l'embauche dans ces métiers? C'est parce qu'il y a des gens qui restent et qui font carrière dans ces métiers. Et puis des personnes au bout de 5 ou 10 ans, eh bien arrêtent ces métiers parce que effectivement, quand vous n'avez pas une véritable passion, eh bien vous vous épuisez.
Bonsoir Edouard.
Oui, bonsoir.
C'est votre cas, vous y avez passé 10 ans, vous y êtes toujours ou pas?
Non, j'y suis toujours sans y être. C'est pour ça, parce que ça fait 20 ans que je suis formateur maintenant.
D'accord.
Dans un lycée hôtelier. Et justement, je disais au standard, parce que 30 ans à passer en une minute, c'est difficile. Donc j'ai essayé d'être concis. Et merci pour la grande qualité de vos émissions.
Allez-y,
donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, si j'ai quitté le métier, entre guillemets, sans vraiment le quitter, c'est pas tant tout ce que vous avez décrit comme difficulté ou comme contrainte, c'est pas tant cela, c'est surtout la contrainte du plafond de verre, comme pour répondre à Monsieur Marx. Souvent, quand vous voulez monter en hiérarchie, moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe, chez un traiteur aussi, un grand traiteur parisien. Et souvent, c'est un plafond de verre, parce que souvent, pour les recrutements à poste à responsabilité, on va chercher ailleurs, des commerciaux, par exemple chez HEC, etc. Ou bien, deuxième cas, vous montez en hiérarchie, mais moi, je prends un exemple, on m'a proposé un poste en 1996 ou 97, quelque chose comme ça, responsable d'un secteur dans un hôtel, sur un hôtel à l'aéroport de Roissy. Et on m'a proposé 8 000 francs à l'époque. Alors je suis sorti de l'entretien, j'ai rien dit à la personne avec qui j'avais l'entretien. J'ai juste pensé en moi-même, j'ai dit, bon, j'ai pas répondu positivement. Et j'ai lâché l'affaire parce que pour 8 000 francs, il aurait fallu que je fasse des horaires en veux-tu, en voilà, à rallonge. Et c'est pas possible.
Et alors, Edouard, puisque vous êtes formateur maintenant, moi, je voudrais savoir ce que vous dites à ceux que vous formez, c'est-à-dire comment vous les préparez à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire il y a des fois où ce sera plus difficile que d'autres, comme le disait Thierry Marx, on vous proposera parfois des horaires qui sont des horaires hors la loi. Est-ce que vous leur dites, n'y allez pas parce qu'il y a suffisamment de boulot ailleurs? Comment vous leur parlez à ces jeunes-là?
Je leur dis surtout que c'est un beau métier que j'aime encore. Mais que si je devais quitter l'enseignement, je n'y retournerais plus, pour les raisons que je vous ai présentées. Par contre, ce que je leur dis, c'est, déjà, il faut l'aimer à la base, mais c'est pas facile, vous savez pourquoi? Parce que déjà, la formation, moi, quand j'ai commencé, la formation était sur 4 ans, avec 12 heures de pratique professionnelle par semaine. Maintenant, nous sommes passés en 3 ans, et nous avons 6 heures de pratique, je dis bien de pratique professionnelle avec nos élèves. Donc, le miracle, je ne sais pas faire. Et souvent aussi, et après, je pense que ça suffira.
Ouais.
souvent, les jeunes qui arrivent chez nous arrivent par dépit.
Alors, on va y venir justement. Je voudrais entendre Thierry Marx, mais aussi Roland Aigui là-dessus. Ce qu'il dit en creux, alors c'est pas toujours le cas, hein, je devance un peu ce que vous allez dire, parce que j'imagine que c'est pas toujours le cas. Mais ce qu'est en train de nous dire Edouard, là, c'est pas le premier choix, l'hôtellerie-restauration. Mais bon, c'est un choix par défaut un peu.
Bah écoutez, on a relevé effectivement, on sait très bien que tous les jeunes qui sont orientés à partir de la troisième, souvent, qui sont en difficulté, on leur conseille d'aller vers l'hôtellerie, la restauration. Bon, et on a un rôle aussi très important dans ce domaine-là, pour effectivement d'éducation. Je voudrais répondre à monsieur, effectivement, en tant que professeur maintenant. Vous savez, nous, notre organisation chez nous, et la profession en général, on voudrait effectivement, on réfléchit pour rendre nos métiers plus attractifs avec tout ce que vous avez connu, hein, pour arriver à fidéliser nos salariés. Enfin, il y a toute une démarche dans ce sens-là, parce qu'on voudrait casser cette image. Elle est insupportable, cette image, pour cette profession qui va se développer. Vous savez que le tourisme va se développer énormément dans les années à venir. Donc, il faudra qu'on soit attractif, il faudra qu'on soit compétitif, il faudra qu'on soit accueillant. Donc, tout ça, c'est des choses très... Donc, on a besoin de ces jeunes, il faut qu'il y ait de l'appétence pour ces métiers-là. Il faut aimer. Le service est très important. Donc, il y a vraiment, alors on parle d'ascenseur social, on peut vous citer des exemples extraordinaires dans ce métier-là. Vous prenez, je parle devant Thierry, si vous prenez les 27 étoiles, 3 étoilés, ils sont tous pratiquement passés par le CAP. Donc, il faut aussi me remettre tout ça en lumière, quoi.
Et alors Thierry Marx, il parle aussi de plafond de verre, en fait, notre ami Edouard. Oui, dis-moi, je l'ai touché très vite, en fait.
Oui, je suis un peu moins d'accord avec ça, parce que le plafond de verre, effectivement, il a raison, et il faut montrer un petit peu ce qu'on veut pour monter dans la hiérarchie de ce métier. Mais par contre, le point qui était intéressant, c'était la formation professionnelle. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui, sur le temps de formation. C'est-à-dire qu'il faut réduire le temps de formation et augmenter le temps de pratique. Je donne un exemple. Nos écoles qui travaillent dans les quartiers politiques de la ville, on forme en 12 semaines. Et à chaque fois, on me dit, mais c'est pas possible, 12 semaines. 12 semaines, on visionne les 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes et 5 desserts du patrimoine culinaire français. Et ensuite, c'est immédiatement à l'emploi. Et il y a une montée en compétences par situation d'apprentissage. Eh bien, ces personnes restent plus longtemps dans le métier et c'est 95% de retour à l'emploi. Donc, effectivement, je pense que ce monsieur a raison. Il y a un vrai travail à faire sur la formation professionnelle parce que il y aura toujours autant de personnes qui vont entrer dans ces métiers avec la passion et qui vont faire une magnifique carrière parce que c'est une clé sur le monde, je dis bien sur le monde. Et en même temps, il y a des gens qui disent qui peuvent se dire, je me suis trompé. Il faut pas leur laisser 3 ou 4 ans de formation pour que 3 mois après, quand ils sont à l'entreprise, se dire, non, finalement, j'ai fait fausse route et effectivement, j'ai été orienté par défaut.
Mais rester plus longtemps dans la carrière, est-ce qu'on sait, là, combien de temps, en moyenne, on reste dans cette carrière-là, finalement? À quel moment on s'épuise? C'est un peu ce qu'avait l'air de dire Edouard.
Le chiffre moyen, c'est 7 ans.
C'est pas beaucoup.
Non, et y compris chez les gens qui ont fait de hautes études hôtelières, or que la durée est un peu plus longue chez les gens qui sont au niveau du CAP, mais les gens qui ont fait de grandes études, par exemple des écoles hôtelières de renom, eh bien restent à peine 7 ans dans ces métiers.
Parce que, alors, que ce soit difficile, et on y reviendra, ça c'est effectivement, oui, c'est difficile, mais peut-être qu'on le dit pas assez, pour le coup, là, dans les formations, non, Thierry Marx, après tout, est-ce qu'ils savent à quoi ils s'attendent une fois qu'ils commencent à travailler, si au bout de 7 ans, c'est compliqué?
Je vous l'accorde, mais il faut
pour le coup, rentrer très très vite au contact du métier, donc au contact de l'entreprise, et surtout visualiser son projet. Dans quel type de restauration on veut aller, et puis, une fois qu'on a visualisé son projet, aller tout de suite au contact terrain pour se dire, non, vraiment, je suis pas fait pour ça. Mais quand vous regardez le travail d'une infirmière, quand vous retravaillez le travail dans du BTP, c'est pas plus simple.
Non, non, donc, mais la comparaison est bonne parce que c'est le même genre de choc une fois arrivé le marché du travail.
Exactement,
en fait.
Et moi, je rencontre des infirmières ou des infirmiers qui me disent, bah, j'arrête, j'en peux plus, les nocturnes, tout ça, je ne peux pas. Donc, c'est pas propre à l'hôtellerie-restauration, mais effectivement, l'hôtellerie-restauration a quand même un certain nombre de réformes à pousser un petit peu pour que ces métiers soient effectivement plus attractifs. Et puis, et là, je parle en face du président, donc, de continuer aussi à faire la chasse aux employeurs qui ont des fois des comportements qui sont un petit peu déviants.
Roland Guy, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, tout simplement, effectivement, si la durée moyenne c'est de rester dans le métier, c'est 7 ans, ce qui est avancé. Mais par contre, toutes ces personnes-là trouvent de l'emploi en suivant, quel qu'il soit, dans n'importe quelle orientation, en France et dans le monde entier. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils se retrouvent pas en situation de chômage.
Mais dans un autre secteur, quand même.
Dans notre secteur, oui. Mais il me semble qu'on a fait, je veux dire, on leur a ouvert un petit peu l'esprit, ils ont découvert, ils ont décidé à un moment donné d'aller dans une autre orientation, dans un autre travail. Mais ce qui est important, c'est qu'ils trouvent du travail. Et il n'y a pas beaucoup, effectivement, de branches et de métiers où qu'on soit cuisinier, enfin, qu'on soit dans tous les autres secteurs, où derrière ça, on nous propose du travail dans le monde entier.
Oui, mais je suis d'accord. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la relation au travail. Quand on nous parle de génération, quand on prend la génération Y, mettons, j'aime pas trop ces significations, mais on dit, elle nous dit carrément, j'aurais pas un rapport sacrificiel au travail. Tout secteur confondu.
Et beaucoup de choses ont changé effectivement dans notre rapport au travail.
Exactement. Et quand je regarde, et c'était le cas aujourd'hui, j'étais dans une école où on donnait des diplômes, ces jeunes gens nous disent, montre-moi ce que c'est que ton métier, son attractivité, et peut-être que j'irai chercher les compétences. Peut-être que j'irai chercher les compétences. Donc voilà, il faut aussi que nous, métiers, entreprises, nous adaptions à ce type de demande.
Combien t'es payé, combien d'heures tu travailles, est-ce que t'as des vacances, etc.
C'est des questions parce que le choix est vaste.
Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Allez-y Marie, on vous écoute.
Alors moi je suis du côté des patrons, une toute petite patronne, et je ne fais pas partie des gens qui veulent profiter des employés. Moi cet été j'aurais pu, j'avais du travail pour embaucher quelqu'un, sauf que je ne sais pas comment faire, je ne peux absolument pas lui proposer un salaire au-delà du SMIC, avec des horaires pas du tout attractifs, donc des horaires fractionnés, venir travailler le samedi, venir travailler le dimanche, venir travailler les week-ends, les jours fériés, pardon. Mais de l'autre côté, un petit salaire que je comprends parfaitement bien n'est pas du tout à la hauteur de l'attente de la personne que je vais embaucher. Mais je peux pas la payer plus cher parce que de l'autre côté, mes clients ne veulent pas payer davantage, que je suis ponctionnée par les plateformes aujourd'hui incontournables qui nous prennent 18, 20, 25% de commission. Airbnb avec une multitude de particuliers qui viennent, qui font des prix sur lesquels moi j'ai je sais
c'est
pas
du mal à vous
faire.
Aligner
moi des chambres à 25 euros je ne sais pas comment faire quand derrière il faut que je donne 63% de mon chiffre d'affaires en cotisation. Donc voilà, moi cet été j'ai pas travaillé tout ce que j'aurais pu travailler beaucoup bien davantage si j'avais pu embaucher quelqu'un pour m'aider, mais j'ai pas pu parce que les gens venaient puis ils me disaient merci beaucoup madame, je vais réfléchir et voilà, mais
ils revenaient pas
et
donc ils revenaient pas
me mets à leur place. Donc quand on dit il suffit de traverser la rue, mais je comprends qu'ils aient pas envie de venir travailler dans les conditions que je leur proposais. Je comprends parfaitement bien.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie. Je vous ferai réagir tous les deux, Roland et Guy. Le témoignage de Marie frappait au coin du bon sens. Effectivement, oui, c'est compliqué pour elle avec une trentaine de chambres, donc c'est un joli gîte. Il y a beaucoup de boulot, mais
malheureusement, il y a beaucoup de PME qui sont dans ce cas, dans le cas de Marie. Il faut savoir que dans notre profession, on ne le rappelle pas assez, la masse salariale correspond à plus de 40%. Ça veut dire qu'un salarié, si vous regardez la ligne moyenne de son salaire, un salarié égale 100 000 euros de recettes. Donc je ne vais pas questionner Marie, mais enfin, vous voyez, il y a aussi la partie, j'allais dire, technique. Donc tout ça est très difficile pour trouver. On est en train de réfléchir, on va faire des propositions au gouvernement très rapidement, ce qu'on appelle le plan emploi, en prenant en compte ce que vient de dire Thierry, justement avec tous les jeunes, parce que il faut qu'on modifie complètement cette approche-là sur la formation. Voilà, on a mis des commissions en place très rapidement, décidément, on va faire des propositions. et on a mis d'ailleurs, on a lancé un observatoire avec sur BVA qui va nous dire pourquoi ces jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de nos métiers, ces jeunes-là. Donc c'est important, on attend le résultat et à partir de là, on va faire des propositions parce que, et malheureusement, on n'est pas les seuls concernés, on n'est pas la seule la branche concernée, mais il faut repenser entièrement, je veux dire, les emplois, les salaires et la perspective de grandir dans nos entreprises.
Avant que vous répondiez, Thierry Marx, on va écouter Didier parce qu'il est à peu près dans le même ordre d'idée. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Didier, bienvenue.
Alors, merci de prendre mon appel et mon témoignage. En fait, je vais être porte-parole de ma fille aînée qui travaille dans la restauration. Elle a fait le lycée Friant, qui est un lycée hôtelier restauration. Elle a eu son diplôme. Elle trouve très facilement du travail dans la restauration. Elle m'a raconté ses différents boulots. Mmh. Donc, il va
pardon,
y avoir
elle fait quoi votre fille, Didier? Elle est en cuisine, elle est où, elle fait quoi?
Alors, elle est en service.
D'accord.
Elle préfère faire ça. Donc,
d'accord.
Elle a choisi sa branche, okay. Ça lui plaît. Elle a les compétences, elle a su les démontrer. Elle connaît les contraintes au niveau des horaires, des journées. Les salaires, elle les connaît, ils sont pas faramineux. C'est pas ça qui lui pose problème.
Mmh.
Le truc qu'il y a, c'est que elle s'est retrouvée dans des situations à plusieurs reprises donc où l'employeur tardait à établir un contrat. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle recevait son salaire, mais n'était toujours pas sous contrat. À force de demander, au bout d'un moment, l'employeur renonce et il y a rupture à l'amiable entre elle et son employeur. Donc ça, je trouve déjà assez déplorable, mais je pense que c'est pas un cas rare. Et autre phénomène, elle m'a dit, on m'a fait travailler au black.
Mmh.
Voilà. Il n'y a pas, c'est pas une histoire de compétence ou de mauvaise volonté ou d'être buté par les conditions de travail, c'est que il y a déjà des dysfonctionnements au niveau du cadre juridique. Quoi.
Merci beaucoup Didier. Thierry Marx, c'est compliqué. Comment on fait le ménage, pardon, je vais le dire comme ça en fait.
Mais vous avez raison, comment on fait le ménage, ouais. C'est très compliqué. Moi je cherche pas les boucs émissaires ou de porter le doigt pointé sur qui que ce soit. C'est vrai que cette fragilité du coût salaire fragilise bien souvent les entreprises qui ont besoin de personnel et certaines ont recours à des pratiques qui ne sont pas normales, pas légales et on peut le comprendre, il y a l'urgence, il arrive qu'un matin il vous manque trois personnes, mmh. Il faut absolument répondre à ça et donc le premier candidat qui passe il n'y a pas forcément de contrat ici et ça, et puis en même temps il y a des employeurs qui font plutôt bien les choses, mais c'est vraiment très très fragile, il y a une opacité dans le fonctionnement des fois qui est compliqué, y compris nous on a des établissements qui sont des établissements importants, mais le petit restaurateur, celui qui compte sur un ou deux collaborateurs, quand ce collaborateur disparaît, parce que ça arrive, eh bien, il y a la tentation effectivement du travail dissimulé. Il faut y faire très attention, mais aujourd'hui, ce que disait le président est très juste, il faut regarder ça de près, regarder les faits, et puis essayons de trouver des solutions.
Mais quand Roland Guy dit qu'il faut repenser les emplois, par exemple, y compris d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, sur comment les gens sont prêts à travailler aujourd'hui, combien d'heures, avec quelle motivation, comment on repense ces emplois-là?
Moi, je pense que c'est surtout au niveau de la formation professionnelle, donner une accessibilité beaucoup plus rapide au métier et au rythme métier, c'est-à-dire que vous vous formez plus vite, vous intégrez le métier et vous en sortez un petit peu quand vous en voulez. C'est difficile pour un gamin qui a fait un CFA, qui a fait deux années, il a un CAP, on lui propose en gros un brevet professionnel ensuite. Bien souvent, on va lui proposer un bac professionnel et nous, employeurs, on va l'embaucher comme commis de cuisine à 1 350 € net par mois. D'abord, il a une difficulté de logement, bien souvent, il a une difficulté de transport, de mobilité, donc tout ça ne l'encourage pas et c'est pas seulement l'employeur qui est responsable. Il y a tout un tas d'autres phénomènes qui remettent en cause la durabilité dans ce métier.
Roland Guy ?
Oui, je voudrais rajouter simplement, il faut pour répondre à monsieur et à sa fille surtout, dans la profession, 82% des contrats sont en CDI, 15% en CDD. C'est quand même, il faut quand même le savoir. Ensuite, la chose très importante, et pour soutenir ce que vient de dire Thierry, il existe des mauvais élèves partout, dans toutes les organisations, malheureusement. Hein. Celui qui roule à 180 km à l'heure, quand lui qui faut rouler à 80, par défaut, il est dangereux.
Ne parlez pas du 80, malheureusement.
Voilà. Mais nous, organisation qui accompagnons les entreprises citoyennes, on ne peut pas défendre ça. C'est pas possible. On l'entend, mais on se mettra jamais en face pour être l'avocat de ces entreprises-là, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'effectivement on doit régénérer cette profession, on doit l'oxygéner,
Donc faut faire une sorte de ménage quand même,
mais,
en fait.
Mais
pas seulement au niveau du métier.
Mais voilà.
Aujourd'hui on parle de CDI, CDD. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans, ça lui parle pas.
Ouais, il n'a pas forcément envie d'un CDI non plus, d'ailleurs.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans notre métier, qui vous disent, ah ben, j'ai très content de travailler chez vous et je vais passer à autre chose. Voilà, j'ai eu une expérience qui m'a plu, mais j'arrête. Donc, c'est l'histoire du CDI, du CDD. Je crois qu'il faut, il faut repenser tout ça, mais pas simplement dans les métiers de l'hôtellerie et restauration. Il faut être beaucoup plus vaste que ça.
Tiens, puisqu'on parlait de bons et de mauvais élèves. Bonsoir, Francis.
Bonsoir.
Allez-y, Francis.
J'ai entendu déjà parler de plafond de verre, c'est pas ma question, mais j'ai noté que ça n'existait pas dans la profession dont vous parlez ce soir. C'est vraiment une exception, cette profession. Il faudrait donner la recette à d'autres, Air France, etc. Et quant aux plateformes, une dame se plaignait qu'elle prélevait trop, mais qu'attend la profession, pareil pour les taxis, pour développer ou faire développer des plateformes françaises?
Oui, alors c'est toute une, c'est une, c'est une vaste question, Francis.
Oui, absolument. Bon, quant à ma question, c'était.
Il existe des plateformes, j'imagine, qui peuvent concurrencer. Allons-y, c'est ce que vous dites, concurrencer Airbnb et d'autres, mais c'est compliqué.
On pourrait, mais il faut les chercher. Ma question, elle concerne la baisse de TVA. Il y a eu, j'ai retrouvé l'information depuis. Donc, le 1er juillet 2009, l'État applique un taux réduit de TVA à 5,5% à la restauration commerciale hors boissons alcoolisées. Tous les acteurs du secteur de la restauration commerciale bénéficient de cette baisse de la TVA. Restauration traditionnelle, cafetier, limonadier, etc. Et la restauration rapide pour la partie vente en salle. En contrepartie, les professionnels donc qui sont invités là ont pris des engagements. Je voulais savoir le résultat des courses. Alors, après tant d'années, ces engagements portaient sur la baisse des prix, la création d'emplois, l'amélioration de la situation des salariés et la modernisation du secteur.
On a compris.
Quelle proportion de la baisse a été consacrée à chacun de ces quatre domaines?
On a compris votre question, Francis, et il y en a d'autres d'ailleurs, au 01 45 24 7000 qui vont dans le même sens. C'est pour vous, Roland Aiguille, à quoi a servi la baisse de TVA? Est-ce qu'elle s'est reportée sur les salaires?
Écoutez, là, sur les quatre points que vous venez de citer, monsieur, les quatre points ont été validés par le gouvernement. Donc ça veut dire que nos métiers, notre secteur a fait l'effort sur la baisse des prix. Hein, nous sommes sûrement des pays les moins chers. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous faites un déjeuner à 11 euros, 12 euros, c'est ce qui se passe généralement en France. Vous savez qu'il y a 90% de repas pris hors domicile en France qui sont à moins de 15 euros.
Report sur le prix, sur le coût des repas, c'est ce que vous dites, report sur les salaires ou pas?
Les salaires aussi, effectivement. Depuis le début de l'année, on a créé 25 000 emplois. On a des besoins, c'est le but de l'émission. D'ailleurs, aujourd'hui, on a besoin de pratiquement de 100 000 emplois dans les CHR, dans nos 35 métiers. Donc voilà, on travaille justement, on a travaillé pour trouver de l'intérêt de ramener ces jeunes, alors avec de la formation courte, etc., etc. On va faire des propositions, je le répète, mais on a des gros besoins. On va améliorer aussi les conditions de travail, ça fait partie de toutes les propositions. Mais il faut arrêter, on a la chance effectivement d'avoir au moins en France ces métiers qui sont extraordinaires, qui vont se développer dans les années à venir par rapport au tourisme, par rapport à tout. Je le répète, on va recevoir de plus en plus de tourisme, de plus en plus de Français dans nos restaurants. Il faut bien les accueillir, il faut qu'on soit pertinent, il faut qu'on soit accueillant, il faut qu'on soit compétent.
Thierry Marx, le lien entre la baisse de TVA et l'augmentation des salaires ou pas, une question qui revient beaucoup.
L'augmentation des salaires, ça me paraît être juste. Il y a eu une augmentation des salaires dans nos métiers. En tout cas, moi, chez moi, c'était comme ça. Par contre, le rapport au prix de vente, pour moi, c'est une imbécilité. C'est-à-dire que le prix n'est pas une valeur. La valeur est ailleurs. Donc, quand on défend une filière dite gastronomique, vous protégez un artisanat, mais vous protégez aussi une filière agricole. Donc si on veut une restauration de qualité, il faut aussi défendre les petits producteurs et leur acheter au juste prix et à ces paysans le juste prix de la valeur de leurs produits. Et ça,
il y a des liens avec d'autres activités qui n'existaient pas autrefois dans vos métiers.
Exactement, exactement. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord quand j'entends ce monsieur qu'on doit être capable de mesurer notre impact social et notre impact environnemental. Mais sur l'impact environnemental, là, je ne négocie pas. Le petit producteur qui me fournit des œufs bio de qualité, je trouve normal de lui payer 50 ou 55 centimes l'œuf et que ça lui arrive directement. Donc il y a tout un tas de filières qui ont été mises en place.
place par les restaurateurs, et pas que des grands restaurateurs étoilés, tout un tas de personnes qui sont à l'UMI ont mis en place des circuits courts. Donc aujourd'hui, il faut aussi valoriser ça.
Et des changements de pratique chez nous aussi, qui venons chez vous les restaurateurs, qui attendons de votre part ce genre de choses.
Warren Buffett le dit, le prix n'est pas une valeur, la valeur est ailleurs.
Pascal, bonsoir. Pascal, vous êtes là ou pas?
Oui, je suis là, formidable. Je vous entends.
On vous écoute. Pascal, bonsoir, allez-y.
D'abord, merci parce que votre émission va toujours au cœur du sujet abordé. Voilà, je suis enseignant et je suis enseignant en lycée hôtelier. Et moi, du coup, plutôt du côté de l'éducation nationale. Le monsieur qui est intervenu tout à l'heure a dit qu'il était formateur, donc je suppose que c'est dans un centre de formation d'apprentis. Alors, quoi que ça fasse, hein, de toute façon, les programmes sont les mêmes. En revanche, moi, je voulais parler des programmes qui sont abordés à l'éducation nationale, et je pense qu'il serait bien que les professionnels s'investissent véritablement plus dans ce qui est demandé à faire apprendre aux élèves.
C'est-à-dire que vous ne voyez pas assez de professionnels de la restauration, de l'hôtellerie chez vous, à l'éducation nationale, c'est ça que vous dites ?
C'est-à-dire que, voilà, moi je suis ancien professionnel, je suis avant tout professionnel, et ensuite je suis devenu professeur, comme la plupart de mes collègues. Mais lorsque je fais le rapport avec les demandes des professionnels, je trouve que les programmes sont de moins en moins en adéquation avec la demande professionnelle. Je vais prendre un exemple très simple. On demande à apprendre à nos élèves certaines techniques qui certes sont un patrimoine, mais malheureusement n'est plus pratiqué du tout. On perd un temps incroyable à leur faire apprendre, bien sûr, des pratiques. Moi, ces techniques-là, je les adore, mais malheureusement, voilà, j'ai un temps donné. De plus que ce fameux baccalauréat professionnel dont le monsieur parlait tout à l'heure, à l'origine, il était fait et il a été créé par le groupe Accor, on va pas se voiler la face, pour créer une équipe de jeunes qui était une petite élite, on va dire, qui sortait avec un BEP à l'époque pour, on va dire, diriger des petites équipes dans les grands hôtels.
Est-ce que, pour que les gens nous comprennent, pardon Pascal, je reviens à ce que vous disiez sur les techniques, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, en fait, pour les gens qui nous écoutent, la bonne vieille technique d'antan, c'est quoi ?
Voilà, il est demandé, par exemple, sur le bac professionnel restauration, notamment, par exemple, en service en salle, encore des préparations et des flambages. Enfin, je veux dire, ça s'adresse à une élite de la restauration, et c'est pas avec ça que nos élèves vont pouvoir, un jour, lorsqu'ils vont arriver à chercher un emploi, eh bien, on va leur dire, bah oui, mais ça c'est bien gentil, mon garçon, mais moi, c'est pas ce que je fais. On va leur demander d'être plutôt des commerciaux, des vendeurs. Alors, bien sûr, le programme, il est un peu axé à ça, mais un autre exemple, nous sommes en contrôle continu. Nous sommes en contrôle continu. Les formateurs en CFA, eux, ont encore l'examen ponctuel. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quel compte doit-on rendre à notre administration ? Des résultats d'examen. Et ces résultats d'examen, si nous ne sommes pas à la hauteur, évidemment, nous avons des retombées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, bien sûr, nous validons très souvent, et je l'avoue, nous validons des bacs professionnels à des élèves, parfois, eh bien, qui ne sont pas à la hauteur. Tout simplement parce qu'on nous demande des comptes pour faire des résultats et des statistiques.
Alors, ce qui doit exister dans beaucoup de bac pro d'ailleurs. Pardon de vous interrompre, Pascal, mais je voudrais bien que Thierry Marx réponde parce que je vous ai vu réagir.
Non, j'entends ça depuis des années. D'abord, les professionnels et le président en est témoin. On est très actifs sur le contrôle des examens et la proposition que nous faisons régulièrement. Après, un métier, d'abord, diplôme ne veut pas dire employabilité. Soyons clairs. Il faut apprendre des bases. En cuisine, les bases, elles sont simples. 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes, 4 grandes cuissons des légumes, 5 desserts du patrimoine culinaire français. Voilà ce que nous demandons. Et ça, avec ça, vous avez une clé pour rentrer.
Et le flambage,
de façon
là, on fait partie.
Alors, les métiers du service. Les métiers du service, je suis d'accord, sont des vendeurs, des gens qui vont avoir un contact avec le client, mais il faut qu'ils apprennent des bases, une posture. Le flambage, pourquoi pas, c'est une posture, bien que dans des maisons, on ne leur demandera plus. Mais je pense qu'il faut continuer à proposer ce genre de technique pour donner à la salle une capacité à avoir un geste technique en salle qui plaît beaucoup aux clients. Aujourd'hui, le client nous demande de voir la main qui le nourrit, finalement. Donc je crois que c'est un faux débat. C'est totalement un faux débat. Et aujourd'hui, les professionnels attendent des formations plus courtes, plus précises et le nom du groupe hôtelier qui a été cité, oui, ils ont influencé un mauvais CAP. Mmh. C'est pas de notre faute. C'est-à-dire qu'on commence à parler à des gamins qui rentrent dans ce métier des techniques de cuisson sous vide, or qu'ils n'ont pas les bases nécessaires déjà pour acquérir ce type de technique. Donc là, il y a un vrai souci. Mais là, très honnêtement, les professionnels sont très investis là-dedans.
Roland et Guy, qu'est-ce qu'ils vous disent, les professionnels, quand ils voient sortir les gamins d'un BEP, d'un CAP? Quand même, il y a parfois une inadéquation entre l'un et l'autre,
ou est-ce qu'en général surtout effectivement, en termes de cuisine, il y a du savoir-faire. En salle, c'est différent. Il y a du savoir-être. C'est-à-dire que souvent, vous prenez une personne, des jeunes, garçons, filles, qui viennent dans l'établissement, en 6 mois, ils peuvent tout à fait intégrer le service, parce c'est un petit peu comme le théâtre, vous voyez, ils ont des cours de théâtre, ils se présentent bien, ils s'intéressent au travail, ils s'intéressent aux produits, ils se sont des vendeurs, voilà, et ça, c'est ça qui est très important. Dans nos métiers, on a une fragilité dans ce domaine-là. Il faut qu'on conforte effectivement le service, parce que le travail qui est fait en cuisine est souvent magnifique, et le relais entre la cuisine et la salle est souvent, je ne vais pas dire déplorable, mais pas à la hauteur.
Et puis surtout, c'est ce qu'il faut insister sur les métiers de la salle, c'est qu'on arrive avec un peu moins de temps en France et d'envoyer tout de suite en Erasmus pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut exercer dans le métier du service, eh bien, 3 mois de formation pratique suffisent, et ensuite 6 mois de formation dans une école anglaise ou en Angleterre. Là, ça serait très utile, parce que ça, c'est une véritable clé pour le métier.
On est d'accord, on parlait de tourisme tout à l'heure, si on ne peut pas parler au moins l'anglais, effectivement, c'est un souci. Sylvain, c'est vous le dernier. Pardon de vous demander d'être un peu rapide, mais soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir déjà. Je voulais revenir, moi, sur la phrase d'Emmanuel Macron, et je dois faire partie des rares personnes qui ont apprécié sa phrase.
Okay.
Je m'explique. Sur mon cas personnel, je prends ça dans le sens où du boulot, effectivement, il y en a. Il faut juste de temps en temps savoir reprendre ses exigences à la baisse. Je suis, moi, père de famille de 5 enfants. Et si je veux continuer à faire vivre ma famille convenablement, bah de temps en temps, je prenais des boulots dans lesquels j'avais pas spécialement de formation. Donc, bah forcément, les salaires étaient moins intéressants. Mais c'est pas pour autant que je gagnais autant d'argent. Il fallait que je fasse une croix là-dessus aussi. Mais au moins, je rentrais pas dans les chiffres des demandeurs d'emploi. Et à la fin du mois, je continuais à me regarder fièrement dans le miroir.
Eh ben, écoutez, Sylvain, tant mieux. Et chacun, dans ces moments-là, vit les choses comme il l'entend. Oui. Vous avez 5 enfants, vous avez cette motivation-là. Il y en a d'autres qui considèrent au contraire qu'il y a un seuil au-dessous duquel on ne peut pas aller.
Moi, j'aime bien le propos, parce que c'est vrai qu'il faut nuancer ce qui a été dit. On traverse la rue, bien souvent, effectivement, pour des emplois non qualifiés. Mais ce qui a été mis en place, et très récemment, ce qui est très intéressant, c'est sur la formation professionnelle. C'est vrai qu'on peut se former beaucoup plus vite dans nos métiers aujourd'hui pour intégrer les métiers à une rémunération un peu supérieure.
Rapidement, Roland. Non,
très rapidement pour terminer. Très vite. La priorité du président de la République, effectivement, dans son programme, c'était de réduire le chômage du président de la République, de son gouvernement. Donc, effectivement, quand il sait que certaines branches nous sommes demandeurs, il essaye de rapprocher l'offre et la demande. Voilà, tout simplement. Voilà, je trouve ça très sensé.
Et c'était un peu tout l'objet de ce téléphone sonne, effectivement, comment on fait pour rapprocher l'offre de la demande. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce téléphone sonne et portez-vous bien.